Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir, Babette.
Bonsoir, Babette.
Une émission qui sera largement consacrée à Bernard Tapie. Émilie, vous évoquez une facette, la facette artistique.
Oui, quand
de Bernard
voulait devenir artiste, je vous raconterai comment ça a commencé.
Et qu'il chantait, je voulais être un artiste à la télévision, Mohamed.
Je vous raconte ce soir comment Bernard Tapie est devenu un dieu vivant à Marseille.
Pierre.
J'évoquerai Bernard Tapie à la télévision dans des grands shows.
Patrick.
Avec Le Pen, ennemi ou complice?
C'est la question que vous poserez tout à l'heure à nos invités. Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre, ami de 45 ans de l'homme d'affaires, et Franz-Olivier Gisberg, qui lui a consacré une biographie. Mathieu.
Apparemment, je suis le seul ce soir à vous parler du Paris Saint-Germain.
Dans le 5 sur 5, mais 5 pas que. 5.
Ça va être
pas
dur,
que, évidemment, on va parler des relations tendues entre la France et l'Algérie, puis les Pandora Papers, de nouvelles révélations sur la fraude fiscale aussi. C'est dans le 5 sur 5 tout à l'heure.
Et Élise Lucet nous en parlera également avant de recevoir tous ensemble François Morel autour du dîner imaginé ce soir par Nicolas Saintès, chef au restaurant Les Fermes de Marie à Megève. Alors là, il y a du sérac de vache à l'huile de noix de Savoie, et je ne sais pas ce que c'est le sérac de vache, cher Nicolas.
Bonsoir, déjà, merci Bonsoir. De m'accueillir Bonsoir. Ce soir. Donc le sérac, c'est un fromage qui est issu du petit lait. Donc quand la production de Beaufort est faite, on récupère le petit lait pour faire un sérac. Et du coup, c'est un fromage qui est pauvre en calories. Voilà.
Ah, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Merci beaucoup, cher Nicolas.
Avec plaisir.
À tout à l'heure. Un battant pour le Parisien, le boss de la Provence, son journal, La Rage de Vaincre, retient de son côté le Figaro, tandis que Le Monde raconte une vie à l'excès. Un vrai roman français, résume la dépêche. À chacun son Bernard Tapie, disparu hier matin, à 78 ans, vaincu par un cancer qu'il combattait depuis 4 ans. Anonyme et personnalité, ils avaient tous aussi leur Bernard Tapie.
Merci Tapie, merci.
On a beaucoup de peine.
Un homme dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français.
C'est un monsieur qui a été très très courageux, qui s'est beaucoup battu.
Personne n'y arrivera à la cheville.
Vous l'aimiez beaucoup?
Je l'aimais beaucoup, oui, je l'aimais beaucoup, 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 beaucoup.
Enfin, j'aimais bien ce type, je le trouvais courageux. Et surtout, c'est un type qui n'a jamais cédé à la culture de la plainte.
Et puis voilà, on l'oubliera jamais.
Nos invités ce soir, le journaliste et biographe de Bernard Tapie, Franz-Olivier Gisberg, l'ancien ministre, avocat historique de Bernard Tapie et son ami proche depuis 45 ans, Jean-Louis Borloo. Bonsoir Jean-Louis Borloo, bonsoir Franz-Olivier, bienvenue à tous les deux sur le plateau de C'est à vous. Franz-Olivier, vous avez consacré en juin dernier un livre à Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour. À vos côtés, Jean-Louis Borloo, ancien ministre, ancien avocat de Bernard Tapie, son ami depuis 44 ans. Je n'ai pas oublié une année.
Non. J'aurais bien fait 45.
Hein. Oui. Vous disiez que Bernard Tapie était comme un frère pour vous?
Oui, enfin, bon, c'est une expression. Oui, je le considérais comme ça.
Bon, on peut dire que c'était un intime, quand même.
Oui.
C'était la famille, un peu, ouais.
Oui, mais vous savez, il y a des gens que vous considérez absolument comme ça. Vous rentrez dans leur vie ou ils rentrent dans la vôtre, peu importe. Et puis c'est instantané. C'est sans raison bourré de... Moi, je l'ai vu arriver dans mon bureau, j'ai vu arriver de la lumière. J'ai vu arriver de la chaleur. J'ai vu arriver un type qui commençait, on ne se connaissait pas, à me raconter des trucs absolument inouïs. Racontant qu'il avait couru chez ses... Enfin bon, bref, peu importe. Et oui, et ensuite, on a tout traversé ensemble, toutes les affaires jusqu'à avant Adidas. On avait un avion ensemble, Bocassa. On avait un club de foot chacun. Voilà. Et on a occupé le même portefeuille ministériel, la même chaise, le même... je veux dire, c'est... En gros, moi j'ai eu de la chance et j'ai eu un peu de facilité. Et lui, il avait du talent et du génie, ce qui fait la différence entre l'un et l'autre. Voilà.
Un frère dont vous avez salué l'ultime combat contre le cancer qu'il avait décidé de ne pas cacher, même affaibli, fin avril dernier, Bernard Tapie avait tenu à témoigner sur le plateau du 20h de TF1.
Il faut que chacun trouve le mobile de son combat. Celui qui est universel, c'est d'arrêter de faire souffrir ceux qui sont autour de nous. Parce qu'eux aussi souffrent. Vous comprenez ? Alors, moi je crois qu'on n'a pas de... Comment ? On n'a pas à se vanter de trouver le courage. On a à avoir honte de ne pas l'avoir. Et il faut l'avoir. Il est à la portée de tout le monde.
Vous lui avez rendu visite jusqu'à très récemment dans son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères. Et jusqu'au bout, on aurait dit qu'il menait une vie tout à fait normale.
Ouais, c'était incroyable parce que moi j'ai connu évidemment beaucoup de cancéreux, vu mon grand âge. Ma mère, Mitterrand, et ce sont des bureaux qui sont toujours pleins de médicaments, de seringues, il y a des infirmiers, etc. Vous alliez chez lui, et attention, même de manière plus intime, dans le bureau à l'étage que tu connais, il n'y avait pas de signes, c'est-à-dire il n'y avait pas de médicaments. Et la raison est très simple, c'est qu'il essayait de lutter, avec ses propres armes, avec ses propres mains contre le cancer.
À l'énergie.
À l'énergie, c'est-à-dire qu'il avait un truc incroyable, les escaliers. Il appelait, je fais des escaliers, hein, t'as dû entendre ça. Je fais des escaliers. Alors il faisait des escaliers. Alors qu'il
montait, il descendait des escaliers.
Une quarantaine de kilos, c'était devenu, enfin c'était affreux. Il était tellement maigre, mais pour tenir, pour résister, parce que la force physique c'est important. Il y a l'anecdote que je raconte, que m'a raconté son fils Laurent Tapie, qui rentre pour le voir après son opération. Et qu'est-ce qu'il voit dans le lit ? Il voit un type qui est en train. Et en fait, il faisait des pompes à l'envers, mais il faisait des pompes. C'est-à-dire, c'est ça Tapie, c'est-à-dire en permanence la forme physique, c'est un sportif. Il faut bien voir. Donc il va aborder le combat du cancer un peu comme un sportif. Et après, ce qui est intéressant, c'est que, comme il dit toujours, j'ai besoin des gens, j'ai besoin des autres. Ce combat, je les ai menés avec les autres. Mais aussi, il a le côté chef d'équipe. Sans arrêt, il disait aux gens, je voyais bien, où il recevait énormément de courriers d'ailleurs, et il disait, attention les antidouleurs, ne prenez pas tout de suite les antidouleurs, c'est pour la fin.
C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de courriers de soutien auxquels il répondait ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il avait, mais c'est quelqu'un qui il mène des combats et il est sur le collectif. Moi, je reviens toujours à l'idée du sportif, c'est-à-dire, les gens ne comprennent pas souvent Tapie parce qu'il peut être très brutal, très violent. Peut-être pas toi, parce que tu étais un intime. Moi, c'est un pote, j'en ai pris plein la gueule, on s'engueulait, c'était épouvantable, il montait dans les tours. Vous êtes obligé de répondre si vous avez un peu de dignité, mais arrête tes conneries, mais qu'est-ce que t'es con, mais arrête, etc. Et c'était plus des conversations, je dirais, de vestiaire, vous voyez. Ça n'avait aucune espèce de gravité parce que ça se terminait avec des embrassades. Les vestiaires, vous savez, quand on a joué, on a mal joué, on s'engueule, mais toi, espèce de connard, tu vas voir. Bon, c'était comme ça quand on était gosse. Lui, il faut bien voir qu'il a été éduqué, en fait, au parc municipal du Bourget parce que son taudis, là où il a passé son enfance, les 20 mètres carrés où ils étaient quatre, ses deux parents, son frère cadet et lui, il était juste en face du stade municipal du Bourget et il y passait sa vie à jouer au foot, à faire des tas de trucs, la piscine, etc.
Il continuait à jouer collectif, y compris à répondre au téléphone et à donner des conseils.
Mais c'était fou.
C'est-à-dire aller rencontrer Emmanuel Macron, le président.
Oui, mais c'est-à-dire...
pour lui donner des conseils, lui prodiguer des conseils.
Le cancer le bouffait de partout, il était là. Il faut réformer ce pays, mais c'est plus possible. Mais attendez, il faut De Gaulle. Il était toujours passionné par la vie publique. Alors que, souvent, on a connu ça autour de soi. Il y a un moment donné, on ferme les grilles et puis voilà, et on se retire un peu. Lui, jusqu'au dernier moment, il était dans le monde, dans l'actualité, il vous téléphonait pour... Est-ce que tu as vu ce truc qui n'avait rien à voir ni avec la maladie, ni avec rien, mais... C'était parce que c'était une actualité forte.
Il y a 4 semaines, il me fait venir me dire, Jean-Louis, qu'est-ce qu'on fait pour la présidentielle ?
Et il pensait quoi, justement ? Il voulait faire quoi ?
Ça, vous ne le direz pas. Mais c'est vrai qu'il était comme ça. Et alors, sur la maladie, un truc absolument invraisemblable, il voulait diriger les équipes hospitalières. C'est lui qui savait qu'il y avait tel produit au Japon, en Corée.
Il réapprovisionnait en traitement.
Les équipes étaient extraordinaires, et notamment celle de la Salpêtrière de Jean-Philippe Spano. Il vous racontera. Vous voyez, mercredi, Jean-Philippe Spano était content avec ses équipes parce que Bernard, il avait réussi à persuader Bernard de reprendre un certain nombre de traitements. Mais une heure de pédagogie, de tendresse. On a des équipes hospitalières absolument inouïes dans ce pays. Pour le personnel, parce que c'est lui qui décidait. Alors, il ne voulait pas prendre de trucs parce que c'est les surrénales qui doivent. Et il faut continuer à.
Pas d'antidouleur, pas d'antidouleur.
Pas d'antidouleur. La morphine, je ne dis pas.
Ah non, mais ça, c'est même pas la peine d'essayer.
Il refusait. Ouais. Bien, il souffrait.
Bien sûr, terriblement.
Mais il souffrait. Et ce qui est incroyable quand il souffrait, tu vois, c'est que. Enfin, il a commencé peut-être dès 2017 d'ailleurs. De temps en temps, on parlait avec lui, parce que moi, c'est. Et on savait que c'était un élancement de douleur, mais il disait rien.
Mais il se plaignait pas. Il à l'hôpital parce qu'il voulait rentrer chez lui.
Ah oui, bien sûr, bah, il partait tout de suite. Dès qu'il a eu son petit truc, allez hop, on se tire et on retourne à la maison. Et puis, pas de lit. C'est-à-dire, moi, il m'avait toujours dit d'ailleurs, quand je serai au lit, ce qui n'était pas le cas de Bernard, parce que de Jean-Louis, parce que Jean-Louis est un intime, mais quand je serai sur le lit, c'est pas la peine de venir me voir. Mmh. J'ai pas envie. Bon, j'ai fait signe quand même, je lui ai dit, mais ça, il voulait pas.
Cet été, dans sa maison, c'est ce qu'il a fait il y a. Vers le 20 août, il a convoqué, invité, comme vous voudrez, les quatre grands patrons de médecine d'oncologie qui l'ont soigné parce qu'ils n'étaient pas d'accord et c'est lui qui a arbitré le truc.
Il a fait un débat d'oncologue.
Non mais extraordinaire, c'est lui. Non mais c'est... Et finalement, ils sont tous mis d'accord sur un truc. Et ça, c'est, voilà, ça s'appelle juste un leader.
Vous nous le disiez, quand vous avez vu rentrer Bernard Tapie dans un bureau, vous avez vu la lumière entrer. Vous étiez tout jeune avocat à Paris.
C'est un gamin.
Un gamin qui rentre dans vos bureaux. Vous le conseillez alors, lui, l'homme d'affaires, spécialisé dans la reprise d'entreprise.
Il n'est pas encore. Hein.
Pas encore, c'était le début.
C'était le tout début, justement. Il venait d'essayer de reprendre un truc à Lyon. Et puis on ne lui avait pas donné. Et puis le président du tribunal, qui s'appelait Mona, je me souviens à l'époque, avait dit... Vous savez, il y a un petit avocat à Paris, là, vous devriez aller le voir. Et c'est comme ça qu'il arrive, tout simplement.
C'est comme ça que vous faites connaissance, Bernard Tapie.
C'est là que commencent les reprises.
Les reprises d'entreprises en mauvaise santé. Il a déjà compris aussi qu'il faut convoquer les médias et les convaincre. Le 21 juillet 1980, il embarque une équipe d'Antenne 2 dans sa voiture pour leur expliquer ce qu'il va faire de Manu France.
Pour quelle raison vous intéressez à Manu France ?
C'est le challenge. Voilà. C'est un mot qui, en France, ne veut pas dire grand-chose parce qu'on a oublié qu'il existait. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut absolument qu'on essaie de savoir qu'est-ce que ça cache, pourquoi c'est faire, dans quelle optique, et qu'on regarde bien partout s'il n'y a pas un polype qui traîne quelque part. Bon, il faut être de temps en temps un peu plus cool et savoir dire qu'il y a des gens qui font des trucs pour faire des trucs.
Si vous êtes séduisant et en bonne santé, impulsif mais pas trop, si, comme Bernard Tapie, vous pilotez vous-même votre propre avion, et si vous êtes capable de tout risquer pour tout gagner, alors vous êtes peut-être déjà, ou vous serez peut-être un jour, un vrai faiseur de fric.
La saga des faiseurs de fric, tout risquer pour tout gagner. Les Échos rappelaient ce matin un de ses surnoms, le Saint-Bernard des canards boiteux. C'est un surnom qu'il aurait aimé ?
Peut-être, hein. Peut-être, hein, parce qu'il disait toujours que ces entreprises-là, s'il ne les avait pas reprises, et ça je pense que Jean-Louis peut témoigner, elles seraient mortes. C'est-à-dire qu'en fait, il les achetait au dernier moment avant qu'elles ferment. C'est-à-dire qu'elles soient, voilà, que tout soit vendu à l'encan, que les locaux soient vendus, etc. Donc il arrivait in extremis, et puis après c'était... Et là, il parlait beaucoup de la jouissance... de relancer une entreprise qui allait mourir avec, évidemment, la joie, l'enthousiasme d'une partie du personnel. Bon, c'était clair que ça n'allait pas toujours forcément bien avec une partie du personnel, mais il y avait l'autre qui restait et qui était heureux de voir la boîte renaître.
Il a fait changer d'avis les Français sur ce que signifiait le mot « réussir ». Il a changé l'image des patrons en France.
Oui, avec l'aide de Mitterrand là-dessus. Hein,
avec l'aide de Mitterrand, on va y venir.
La télé, tout
la
ça.
La célébration de l'effort, de la réussite, jusqu'à faire du jogging le dimanche matin dans Gym Tonic sur la deuxième chaîne avec Véronique et Davina.
Allez Bernard, c'est le jogging. L'entraînement, vous l'avez là. Hein, on respire bien, souple. J'espère que vous avez pris de l'endurance. Allez, tout le monde nous suit. En petite foulée avec Bernard Tapie.
Vous le connaissiez déjà à cette époque, Jean-Louis. Et vous lui aviez dit quoi après cette...
Rien. Mais si je devais dire quelque chose à chaque fois qu'il faisait un truc, on n'aurait pas arrêté de faire des conversations.
Donc vous l'avez découvert un dimanche matin sur France 2, vous avez dit, tiens, voilà, Bernard a encore frappé.
J'ai un vague souvenir, à vrai dire. Je n'ai pas un réel souvenir. Mais il faut bien comprendre, il ne rachetait pas des entreprises pour un fonds. Ce n'est pas ça qui se passait. Il y avait une espèce de persuadé des actionnaires d'une boîte qui était totalement en dérive, qu'ensemble ils allaient la redresser. C'est ça ce qui est. Donc ça, Valérie, c'est pas. Vous voyez, c'est et il apparaissait comme une espèce de boule d'énergie qui arrivait. Il disait, mais c'est pas le licencié important, c'est de ramener 3-4 types de haut niveau. C'est une redynamisation qui, c'est, alors parfois ça marchait pas, mais
quand ça marchait, ça l'intéressait beaucoup moins, hein.
Oui, oui. Ah oui, ça l'intéressait ouais, beaucoup moins.
Ah oui, bien sûr, parce que c'était ça son truc, c'était de remonter et après, bon, bah oui, il revendait.
C'est comme faire la Champions League, c'est comme faire la traversée de l'Atlantique, c'est comme faire ça. C'est...
Il parlait de la jouissance de redresser l'entreprise. Il y avait, pour lui, il disait, c'est une jouissance.
Bien sûr.
Du coup, évidemment, les télés sont fascinées par lui, au point que TF1 va lui proposer d'animer en prime time Ambition, inspiré au départ par des émissions américaines du même genre, mais auxquelles Tapie va apporter sa puissance et qui va proposer à des jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Ambition. La vérité, c'est que c'est dur. C'est qu'il y a des gens à convaincre. Et par conséquent, le dossier qu'on a choisi répond à toutes ces normes. C'est une petite jeune fille. Oui, une jeune fille. Et elle est comme toutes les jeunes filles de son âge. Son idée n'est pas géniale, elle existait depuis des années. Elle a su la faire ressortir.
Entre février 86 et février 87, il y aura 5 grands shows de Ambition. Et on dit, vous dites que c'est au cours de ces émissions que François Mitterrand repère l'énergie de cet homme.
Ouais, non, c'est même avant. Parce que c'est en voyant l'émission Vive la crise, il voit ce type qui n'est pas en complet trois pièces, qui n'a pas de cravate.
Et
avec Yves Montand, et il dit mais c'est formidable. Et il veut le voir. Et c'est Jacques Ségala, qui travaille avec Mitterrand d'ailleurs, qui l'a fait élire en 1981, qui va lui présenter. Et les choses vont se faire assez vite, c'est-à-dire qu'il va suggérer. C'est comme ça que ça se faisait,
oui,
ça se disait à l'époque, à TF1, je crois que ça s'appelait TF1, parce que c'est la première chaîne, de le prendre. Et puis, voilà, il devient une grande star de la télé. Et il arrête, évidemment, quand il rachète TF1 avec Bouygues. Et là, c'est à ce moment-là, il arrête tout ça.
C'était une chaîne publique à l'époque.
Et Mitterrand, en fait, c'est quand même son... comment dire, est-ce que c'est son ange gardien, son bienfaiteur qui deviendra finalement son malfaiteur, parce que c'est évidemment... Son entrée en politique ne va pas réussir. Mais Mitterrand, moi, je me souviens qu'en 1992, je ne connaissais pas Tapie, j'ai connu Tapie bien après Jean-Louis, je ne connaissais pas Tapie, et en 1992, Mitterrand, que je vois entre deux brouilles, parce que bon, de mauvais bouquins pas sympas, des articles, etc., on s'engueule un peu, mais ce n'est pas grave, vous voyez. Puis il me dit, tiens, il y a un truc que vous devriez voir, j'ai un nouveau ministre de la ville, mais attendez, il est formidable. Mais il a un charisme, ça je me souviens très bien. Il faut que vous le voyez, vous allez voir. Si le petit cochon ne le mange pas, il va aller très loin. Et évidemment, je déjeune rapidement avec Tapie. Et Tapie, qui ne comprend pas le fonctionnement encore, il va comprendre quand même vite, mais me dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas avec vous, les trucs avec Mitterrand, vous devriez faire attention, parce que qu'est-ce que vous tapez fort? Un jour, il veut vous arriver quelque chose. Alors je lui dis, là, il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est que si on déjeune ensemble, c'est parce que Mitterrand m'a dit que je devrais déjeuner avec nous. C'est-à-dire, il ne voyait pas le mélange, les relations qu'on pouvait avoir. Mais il a vite compris ça.
Il a regretté d'être rentré au gouvernement.
Non, mais je ne sais pas si François Hivier sera d'accord avec moi, mais je pense que quand on vient d'où il vient, il n'est pas ministre de la ville par hasard. Quand on joue la Champions League, qu'on le fait à Marseille, qu'on fait le record de l'Atlantique à la voile, quand on joue du violon...
Attends, et le vélo, t'oublies le vélo.
Attends. Quand tu fais un Tour de France ou deux, plus un championnat du monde, il y a un moment ou un autre, tu rêves de t'occuper des gens de manière plus importante et plus large. Je pense que de toute façon, il y aurait eu un jour... Un rapport entre le peuple français et lui. Pour moi, il n'a jamais fait de politique, à proprement parler. Il avait un ou deux combats que vous connaissez, mais par ailleurs, il avait un côté passionné, engagement et d'une générosité extrême.
Oui, mais c'est Mitterrand, il veut qu'il fasse de la politique.
Oui, mais une rencontre.
Mitterrand, il pense à lui pour... Non, il en a marre des socialistes. Hein. Il trouve que Jospin, Fabius, ça ne fait pas l'affaire. Il le dit, il ne s'en cache pas. Enfin, il me le dit. Je ne l'écris pas trop à l'époque, mais enfin, c'est du off.
Donc, il en a marre d'eux.
Il en a marre d'eux. Il se dit, de toute façon, ça ne va pas le faire. Le Parti Socialiste, ça va tomber un peu, mais ça reviendra plus tard. Il ne veut surtout pas de Rocard. Il dit, de toute façon, il faut un truc au centre-gauche.
Et voilà l'homme. Mmh. Il est de gauche. Mmh. Il est de gauche parce qu'il est attaché aux valeurs de gauche, Bernard Tapie. Oui. Et puis, en plus, il a un charisme. Ça, c'est le mot qui revenait tout le temps. Ça, Mitterrand, vous savez, était très économe de ce type de mots. Et c'est vrai, quand on voit les images de Tapie à l'époque, là, qu'on vient de voir, par exemple, dans l'émission Ambition, il a vraiment
du charisme. François Mitterrand, qui a toujours assumé son choix. On regarde un extrait et vous réagissez derrière.
Bernard Tapie, je le connaissais très peu avant que Pierre Bérégovoy ne me soumette son nom dans la liste de son gouvernement. Je l'ai accepté. Je n'avais pas de raison, d'ailleurs, de le refuser. Et il s'est révélé un excellent ministre. Excellent ministre. Comme président de l'OM, il semble qu'il a bien réussi. C'est une énergie. L'intelligence est une énergie.
Ça, c'est une Mitterrand typique, c'est-à-dire qu'il dit que c'est Bérégovoy. Pourquoi ? Parce qu'après, il va faire un compliment. Donc, si c'est lui qui l'a fait rentrer, évidemment, le compliment n'est pas très crédible. Il dit, c'est Pierre Bérégovoy, et c'était une très bonne idée.
C'était la sienne. Bernard Tapie est un personnage complexe sur lequel, Patrick, vous avez voulu porter un autre regard.
Oui, c'est un homme qui a su résumer en 6 lettres l'ambition d'une vie gagnée, imprimé en gros caractères sur la couverture de son premier livre. Un homme qui a beaucoup gagné, mais qui, pour gagner, a souvent triché, menti, baratiné, bluffé, négocié, séduit, promis, menacé. Une expression est beaucoup revenue depuis hier pour qualifier Bernard Tapie hors norme. Et il est vrai que son charisme, sa vitalité, son destin ont été exceptionnels, mais il faut aussi entendre hors norme au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'il s'affranchit des règles, de la bienséance, des usages et aussi de la loi et de la vérité. Souvenir de Basile Boli, l'ancien footballeur, dans ses mémoires. Chez Tapie, le mensonge est un art de vivre. Témoignage de Christophe Boucher, biographe de Tapie, ancien journaliste devenu ensuite président de l'OM, il n'envisage pas qu'on puisse gagner sans tricher. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution. Anecdotes et condamnations judiciaires sont légion dans le sport, les affaires et même en télévision. J'en ai été le témoin involontaire quand Bernard Tapie était en quête d'une combine pour faire gagner sa fille Sophie, alors candidate à The Voice.
Et cela vaut aussi en politique, Patrick ?
Tapie est rentré dans l'arène en 89 par un face-à-face musclé et courageux avec Jean-Marie Le Pen, même si quand on revoit ce débat, ce que j'ai fait récemment, on est frappé par l'opposition de forme plus que de fond. Tapie défend les immigrés, mais demande l'arrêt de l'immigration. Il y a un nombre incroyable de clandestins, ce n'est plus supportable, lance-t-il à un moment du débat. 3 ans plus tard, quand la circonscription que vise Tapie, celle de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, menace de tomber à droite, le champion de la lutte anti-Le Pen n'hésite pas à pactiser avec le patron du FN. Au lendemain du premier tour, le ministre Tapie se rend, il est encore ministre à ce moment-là, se rend en personne à Montretout pour obtenir de Jean-Marie Le Pen le maintien de son candidat dans une triangulaire qui sera fatale au RPR et qui fera élire ou réélire Tapie.
Bernard Tapie a toujours démenti ce rendez-vous.
Très vigoureusement, cette accusation de duplicité à l'égard de l'extrême droite est sans doute celle qui l'affectait le plus. Mais voilà, cet arrangement révélé dès 1994 par Thomas Legrand, Emmanuel Faux et Gilles Pérès dans ce livre La main droite de Dieu a depuis été confirmé par 3 protagonistes. Le Pen lui-même, son conseiller politique de Saint-Afrique et l'attaché parlementaire de Tapie, Fradacci, qui ont tous témoigné de la réalité de cette rencontre. Et puis, il est difficile d'expliquer autrement que par un deal la faveur concédée par le FN, qui avait appelé alors à faire battre tous ses ennemis, Michel Noir, Michel Rocard, Michel Mouillot, le maire de Cannes, mais pas Bernard Tapie, étonnement à ce moment-là de Poivre d'Arvor aux 20h de TF1.
Bernard Tapie avait traité vos électeurs de salauds, ils étaient un peu revenus sur les propos. Enfin, je pensais quand même qu'il y avait entre vous deux une certaine animosité. Or là, on a l'impression que vous lui donnez un certain coup de pouce en permettant à votre candidat de rester.
Non, c'est tout à fait inexact. Je ne vois pas en quoi et pourquoi nous devrions choisir entre M. Tapie et M. Fabre-Brespy.
Fabre-Brespy, le candidat RPR, finalement battu grâce à ce coup de pouce, à ce maintien du candidat FN, tandis qu'au milieu de la débâcle de la gauche, Tapie triomphe. Au second tour, l'année d'après, toujours face à Jean-Marie Le Pen, il refuse les gants de boxe que lui tend Paul Amar. Après le match rugueux de 89 sur TF1, il n'y aura pas de deuxième round.
C'est la vie de Bernard Tapie, une vie en clair-obscur que souligne aujourd'hui Patrick. La Marseillaise également, concurrente de son journal La Provence.
Bah je connais le caractère flamboyant, cette générosité extraordinaire, je connais cette capacité à donner des rêves à tellement de gens. Je connais aussi ce que vous connaissez moins, ce fils de communiste jouant du violon, ayant une croix dans sa poche en permanence, une fois du charbonnier, un homme qui, Franz Olivier le racontait dans son livre, le raconte dans son magnifique livre, l'affaire de la petite Zora, la franco-marocaine.
Ah oui, et cette histoire-là, c'est incroyable, parce que quand je lui en ai parlé, il m'a dit, mais qui t'a dit ça? Comme si c'était parce qu'il est tellement pudique.
Bref, il rencontre une petite franco-marocaine, voilà, avec des parents à trois, enfin bon, bref. Jusqu'au départ de cette gamine.
Qui avait un cancer et qui
ils s'en sont occupés, Dominique, lui ouais. et les enfants.
Ils l'emmenaient en vacances, c'était traité comme un enfant. Voilà.
Et vous parlez d'ambition, qui était à l'époque un pactole d'honoraires absolument extraordinaire. Il appelle Marie-France Brière, qui le disait hier encore, pour lui dire, Marie-France, le cachet, je n'en veux pas. Tu le donneras à la
productrice de l'émission. Il a refusé un cachet.
Non, il a eu le cachet, et il a demandé après la série d'ambition. Il a dit à Marie-France Brière, écoute, ce cachet, tu le verses à la Fondation Abbé Pierre. Personne, il a fallu que... on le découvre très tardivement. Et Marie-France Brière lui disant, c'est pas possible, c'est encore service public à l'époque. J'ai un peu, tu te démerdes. C'est allé à la Fondation Abbé Pierre. Ce tapis-là, celui moi, que j'ai vu, je vous jure que la colère qu'a tapis, de voir des gamins au bas des immeubles, tout ça, c'est pas fin, M. Cohen. Cette réalité de ce type, vous ne pouvez pas la résumer à trois phrases. Pardon, mais je vous critique pas, je comprends, c'est bien de donner deux versions. Mais ce type, mais c'est pas. Mais moi, je ne nuance pas. Je dis pourquoi je l'aime. Voilà. Je l'aime parce qu'il a apporté un bonheur de dingue à un nombre de gens incalculable. D'ailleurs, vous ne mourrez pas si. Dans presque tous les foyers français aujourd'hui. C'est à quelqu'un qui aura fini par toucher, par des causes différentes, par des sujets différents, par des natures de problèmes différents, autant de gens différents. C'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'ils le savent. Vous savez, l'argent, ils s'en foutaient. Contrairement à ce que vous pouvez croire, ils s'en tapaient complètement. Ce qu'ils voulaient, c'était faire des trucs extraordinaires. Des trucs extraordinaires. Alors, il a jamais abandonner les codes de son enfance, qui étaient les codes du respect. C'est un homme... Alors pour moi, c'est l'homme le plus respectueux. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas capable de tant que lui. C'est autre chose. Respect. Dans cette période très MeToo, vous avez en 40 ou 50 ans entendu une phrase irrespectueuse, une femme qui a évoqué quelque chose d'inconvenant. C'est un homme qui respecte sa femme, mais qui respecte toutes les femmes, qui respecte les jeunes filles, qui respecte les autres, qui respecte les petits. Et c'est vrai qu'il y a un côté, il va en découdre avec ceux de la société bien installée qui, au fond, s'en tapent de tout ça. Ceux qui ont supprimé l'APL et bien d'autres. Donc, c'est pas par hasard s'il était ministre de la Ville. Et vraiment, je vous le dis parce que ce n'est pas, même si ce qui est dit est vrai, ce n'est pas cette réalité-là. Vous savez, vous avez votre jardin secret, j'ai mon jardin secret, il avait le sien, il est fabuleux. C'est l'homme le plus pudique. Qui savait que Lino Ventura avait personnage avant son décès? Je veux dire, c'est des gars comme ça. Ces gars comme ça, ils ont un cœur énorme. Alors, vous pouvez avoir un cœur énorme et avoir des défauts.
Oui.
Vous pouvez vous emballer, évidemment, quand il vous racontait un truc. Il voulait tellement que ça arrive qu'il en rajoutait. Et dans sa tête, c'était autant tout prédictif. Ça allait se passer parce qu'à force de le dire, ça allait le faire.
Moi, j'ai rien à redire sur ce qu'a dit Patrick Cohen parce que moi aussi, j'aime Tapie. J'aime Tapie avec ses défauts. Et j'aime ses défauts. Parce qu'au fond, il a été très bien résumé par une phrase de Patrick Lelay, son vieux pote Patrick Lelay, qui disait
Ferrari, quelque chose...
Ouais. Et c'est une phrase absolument extraordinaire, il disait « c'est une Ferrari ». Et c'est vrai que, intellectuellement...
Non, mais attends, laisse-moi faire la fin.
C'est une Ferrari. Donc, et intellectuellement, c'est une Ferrari. Physiquement, c'est une
qui
Ferrari.
Qui peut s'emballer, faire des sorties de route et qui n'a pas de frein.
Non. Il a ajouté « c'est une Ferrari », donc c'est une Ferrari sur tous les plans. Mais c'est une Ferrari qui n'a pas de frein. Et je crois que c'est ça un peu. Donc, après toutes les histoires, par exemple, la rencontre avec Le Pen, bon, c'est trois ennemis de Tapie qui disent qu'il a rencontré Le Pen, y compris Le Pen lui-même. Bon, moi, je demande toujours à voir. C'est toujours. Est-ce que c'est crédible? Je ne sais pas.
De toute façon,
ça s'appelle du bon journalisme, puisqu'il y a deux personnes ici qui disent voilà en quoi Tapie était intéressant et pourquoi d'ailleurs on l'aimait avec ses défauts, parce qu'on ne conteste pas les défauts. Oui. Et puis, journalisme contradictoire.
C'est pas contradictoire. Voilà.
Oui, c'est contradictoire aussi. C'est l'autre face.
On peut être un super type et faire des choses qui ne sont pas forcément recommandables sur le plan.
C'était le sens de ma réponse sur les freins.
Ferrari, sans frais, dont la ville de cœur est Marseille.
Et on l'aimait comme ça.
Où il sera inhumé vendredi, une ville qui l'a fait vibrer en portant son club de foot au plus haut. C'est l'objet de la
story. Qu'est-ce qu'il était aimé à Marseille, hein,
de Mohamed Bouazizi. Ouais. Salut Mohamed.
Salut Babette.
Bernard Tapie, indissociable de l'histoire de l'Olympique de Marseille.
Hier à Marseille et plus particulièrement au stade Vélodrome, l'heure était à l'émotion. Marseille ne s'est toujours pas remise de la mort de son boss, Bernard Tapie, qui sera inhumé dans la cité phocéenne vendredi. L'histoire d'amour entre Tapie et Marseille commence le 12 avril 1986. À l'OM, je vais appliquer ma règle des 3 R. Rire, risque, rêve, déclare le businessman lors de son discours d'investiture. Il commencera par le rire.
Le sourire et l'humour, c'est en tout cas son président qui l'affirme.
Ce qu'il y a de bien à l'Olympique de Marseille, c'est qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on rigole bien.
Tapie donne à l'Olympique de Marseille les plus grandes stars de l'époque, Jean-Pierre Papin, Abedi Pelé, Rudy Voller, Enzo Francescoli. Il s'offre même la légende allemande Franz Beckenbauer comme entraîneur. Les Olympiens sont champions de France en 1989 et le deviendront 4 années de suite. En 1989, Tapie a un rêve, faire venir à Marseille la plus grande légende du football, Diego Armando Maradona. Un transfert qui ne se fera finalement pas, mais ça n'empêchera pas l'OM d'atteindre les sommets. Le 26 mai 1993, l'OM est champion d'Europe. Bernard Tapie touche au Graal, le plus grand exploit du football français de club.
50 années de frustration, de déception qui s'envolent d'un seul coup, évidemment, ça fait du bruit. Surtout quand cette fameuse coupe était promise d'avance aux autres.
Alors, je crois qu'on avait 3 chances sur 10. Mais on la voulait tellement plus que les autres.
Les uns après les autres, les joueurs vont se saisir de la coupe et du micro pour remercier leur public. Mais le plus bel hommage a sans doute été rendu à l'un des leurs, Dimeco, le Marseillais de l'équipe. De la Division 2 à la Coupe d'Europe, il a tout connu dans le club de ses débuts. Et à Marseille, on aime la fidélité.
Le magnifique Éric Dimeco, des millions de personnes dans les rues en France. Les Marseillais restent à jamais les premiers. Et pour l'instant, le seul club à avoir été champion d'Europe en France. Tapie reste aussi célèbre pour ce geste. Sur la pelouse du Vélodrome, le lendemain du titre, il donne sa médaille au plus illustre supporter olympien, Patrice de Peretti.
Si vous me le permettez, vous en referez faire une. Et la mienne, j'aimerais l'offrir à celui qui symbolise tellement cette ville, qui pour moi est le symbole même. À deux paix, voilà. Oui, tiens, voilà, c'est la bien méritée. Voilà.
Mais Bernard Tapie, c'est aussi le reste. 6 jours avant le titre européen de l'Olympique de Marseille, c'est l'affaire VAOM. Jacques Glasman, joueur de Valenciennes, révélera que les dirigeants marseillais lui ont proposé de l'argent pour lever le pied face à l'OM. Tapie plaidera le mensonge de bonne foi en expliquant qu'il ne voulait pas que les Valenciennois blessent les Marseillais avant la finale de Champions League. Tapie restera en prison près de 6 mois. L'OM sera rétrogradé en Division 2 et se verra retirer son titre de champion de France lors de la saison 1993. Franz Olivier, vous vivez à Marseille. Aujourd'hui, une partie des supporters olympiens milite pour qu'on renomme le stade Vélodrome le stade Bernard Tapie. Bah, ce serait un bel hommage pour vous?
Bah, évidemment, je suis pour. Vous savez, il faut voir la ferveur qu'il y a pour Bernard à Marseille. C'est complètement dingue. Moi, je me balade dans la rue tout le temps parce que je marche énormément à pied pour aller là ou là. Et franchement, les gens me demandent tout le temps, d'ailleurs, pas comment ça va, ou même pas pour me demander un selfie, comment va Bernard, parce qu'ils savent que je connais bien. Comment va Bernard? On l'appelle comme ça. C'est un ami, c'est un membre de la famille. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné du rêve, ce que disait Jean-Louis tout à l'heure à propos. Il leur a donné à tous du rêve. Et puis, il ne faut pas oublier, Marseille, on est Marseillais. Hein, c'est incroyable. Tout le monde à Marseille est Marseillais. Je ne dirais pas tout à fait ça de toutes les
villes de France.
Non, vous avez des divergences, chaque petite communauté vit à part. Et là, il y a une espèce de fusion. Vous la voyez d'ailleurs quand on est au stade Vélodrome. C'est juste incroyable de voir tout ce mélange, cette mixité absolument incroyable de gens qui sont ensemble, qui font un même cœur. Et c'est ça qui l'a fait Tapie. Et c'est un moment qui est
reste inoubliable.
Bernard Tapie, le Marseillais, l'artiste aussi, il le chantait d'ailleurs en direct à la télévision en 1985.
Ça, oui, ça c'est. Ah, oui.
Ça, c'est. J'aurais voulu être un artiste.
Oui, il chante bien, vous le disiez. Bah, c'était lui-même qui avait choisi de chanter ce titre, oui, pour l'émission Le Jeu de la Vérité, présenté par Patrick Sabatier. C'était un show télévisé qui promettait à l'époque de révéler la face cachée de la star du jour. Être un artiste, c'est en réalité la première chose qu'il avait essayé de faire bien avant de se lancer dans les affaires. En 1966, il a 23 ans, il se fait appeler Bernard
Tapaille.
T-A-P-Y, prononcé Tapaille, pour faire un peu américain. Et il ne croit plus les filles.
Oui.
Elle avait l'air d'une ingénue, elle en avait seulement l'air. Car à nos rendez-vous, toujours je l'attendais. Des heures entières, j'en devenais fou. Mes bouquets de fleurs se fanaient. Je ne crois plus les filles avec leurs beaux serments. Je ne crois plus les filles.
Bon, on va être honnête, à l'époque ça prend pas, hein, mais ça l'empêchera pas de recommencer.
Et il s'en fout, il va faire autre chose.
Il s'en fout,
c'est ça, il s'en fout.
Et il recommence d'ailleurs, oui, dès qu'il en a l'occasion.
À l'œil, il fait ça, des petits trucs comme ça pour montrer qu'il
juste après sa sortie de prison, il rappe avec Doc Gynéco, en revenant d'ailleurs un peu sur l'affaire. Écoutez la musique.
Touchez mais pas couler, merci de l'invitation. Sur ce, on est en sursis, n'oublie jamais d'où tu viens.
La rue, c'est mon terrain, chacun sa part par la gare.
Balancer la vérité, risquer nos vies à la télé. Alors putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu?
Que tu rigoles, je les aime, la Valencienne.
Valencienne, j'ai rangé mon jeu de frappe et ma pince, Monseigneur. Accepter cette prière, elle vient du cœur. Quoi qu'il arrive sur la planète Terre,
ça s'appelle le gangster. Gangster. D'ailleurs, il va être interviewé à propos de ça et il assume.
Pourquoi on t'accuse d'être un gangster?
Je crois que c'est parce que je suis un peu trop différent des autres.
Voilà, plus que Doc Gynéco dans la chanson, c'est Claude Lelouch, le cinéaste, qui va lui permettre de refaire surface avec le film Homme-femme mode d'emploi en 96. Il a 53 ans et donc il commence cette nouvelle carrière. Mais jouer la comédie, c'est ce qu'il sait faire finalement depuis toujours. Il y prend goût, la comédie qui révèle cette face cachée de Tapie, son autodérision. Il ne se prend pas au sérieux, sauf au théâtre.
Alors voilà, ça c'est la loge. Alors elle est quand même... c'est émouvant parce que c'était Delon, c'était Depardieu, c'était Belmondo avance. C'est magique, on voit que du carton plâtre, des bouts de bois, des échafaudages, des trucs incroyables. Et c'est en ça que le théâtre est magique. Et voilà, et là c'est fait, c'est fini, là il n'y a plus de... Là il n'y a plus de baratin, là il faut y aller.
Là encore pas de limite, acteur, pourquoi pas animateur, il va animer des émissions sur TF1, puis à la radio en 99 il a son émission Allô Bernard sur RMC, tous les jours il répond aux auditeurs, n'importe quel que soit le thème, et puis après aussi n'importe quel rôle j'ai envie de dire, parce que de gangster chanteur, il va jouer dans une série le rôle d'un policier,
commissaire
Valence.
Je suis flic et t'es en état d'arrestation.
Alors, il comparait beaucoup son retour sur les planches à la dernière tournée de Johnny Hallyday dans Les Vieilles Canailles. C'est ça qu'il aurait aimé, juste avant de mourir, on va dire, remonter sur scène.
Non, c'était des... Il se fixait des limites sans arrêt pour vivre plus longtemps. Donc, j'ai bien vu, quand il a eu son cancer en 2017, il parlait de faire une comédie musicale. Il aurait joué Al Capone. Hein, c'était,
non, il voulait jouer Al Capone. Après... Moi, il m'a demandé d'appeler tout Michel Schoenberg. Pour faire Les Misérables, il voulait.
Ah oui, il y avait ça aussi. Ouais. Oui, mais il y avait ça.
Il voulait faire Jean Valjean sur scène.
Mais il se fixait des dates. Il ne pouvait pas mourir avant tel. Donc, et c'est un peu ce qu'a fait Johnny Hallyday avec sa tournée. C'est-à-dire, Johnny, il était pas. Enfin, il avait beaucoup de mal à chanter sur la fin. C'était christique même. Cet homme qui souffrait le malheur et qui était là sur scène à chanter. Et lui, il se disait voilà, en fixant des dates. Et donc là, d'ailleurs, il voulait mourir. Enfin,
il s'est donné comme date le 6 octobre.
Pour avoir le résultat du procès.
Il voulait le résultat du procès. Il n'aura pas le résultat du procès. Il voulait avoir la confirmation de la relaxe qu'il a eue, puisqu'il a été blanchi par la justice. En fait, il est mort innocent.
Finalement, la décision de justice a été reportée à plus tard.
C'est oui, mais enfin, c'est fini, puisqu'il
est innocent cette
maintenant à vie, puisque voilà, c'est fini maintenant. Il est mort. Toutes les actions de la justice sont épuisées.
Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. Merci à vous. Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour. Et c'est toujours disponible aux presses de la Cité. Jean-Luc Bollon, vous restez avec nous pour continuer à commenter l'actualité. C'est l'heure du 5 sur 5, encore quelques minutes, de Mathieu Belliard.
Merci.
Salut,
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
La météo s'invite à la une de l'actualité.
Oui, ce week-end, d'abord sur l'ouest du pays, vous allez le voir, de la pluie et du vent en Loire-Atlantique, record de précipitations à Nantes. On a même appris une nouvelle expression après la goutte froide, les rivières atmosphériques, pour parler de pluie qui arrive tout droit des Caraïbes et qui viennent frapper le littoral. Mais les expressions que l'on connaît déjà, celles qu'on emploie dans le sud, épisode Cévenol pour le Gard et l'Hérault, épisode méditerranéen pour le sud-est, rien d'absolument anormal pour la saison, il faut le préciser, mais encore une fois, de très fortes pluies à Marseille. Les familles ont dû être surprises de recevoir des messages leur demandant de récupérer les enfants à la mi-journée, les transports à l'arrêt aussi. Dans le quartier de la Barrasse, dans le 11e arrondissement de Marseille, Iban Raïs et Audrey Payas ont rencontré ces Marseillais qui ont passé une nuit difficile et le réveil pas spécialement agréable non plus.
Magali, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé concrètement à 6h30 ce matin en me montrant ce qui s'est passé ?
Donc un torrent d'eau qui descend.
Un torrent à mi-cheville, vous m'avez dit ?
Donc à mi-cheville, qui descend jusqu'à cette partie du parking. Le mur de soutènement a explosé et tout est parti sur la route. On est sorti avec mon mari, on avait de l'eau partout, on a sorti vite la voiture, affolement général, on a eu très peur.
On voit que l'eau est montée quand même assez haut, parce que si je ne me trompe pas, ça c'est la marque, c'est la hauteur.
Ouais, bah oui, le mur était nickel, hein, donc ça c'est la hauteur de la coulée de boue qu'on a eue. Et ce matin, vers 6h30, elle a été emportée. Elle s'est décalée, il y avait de l'eau à l'intérieur, les sièges sont remplis de boue. Le principal, c'est de mettre à l'abri ses enfants. Hein.
Et du coup, bah là, votre voiture, elle est en train d'être évacuée ?
Ah bah oui. Oui. Donc là, bah, plus de voiture.
Bon, ils ont prévu encore une retombée, donc si ça retombe et que ça revient là-dedans, donc on aura travaillé un peu pour rien. Quoi. Donc bon, on fait comme on peut pour sauver un peu les meubles, comme on dit. C'est déjà arrivé donc il y a 18 ans et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui a été amélioré.
Alors depuis il y a moins de 2 heures, la vigilance rouge a été levée. Alpes-de-Haute-Provence, Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes et Haute-Corse restent en vigilance orange, orage, crue, pluie, inondation.
De l'eau dans le gaz entre la France et l'Algérie.
Alger rappelle son ambassadeur à Paris. L'Algérie qui interdit le survol de son espace aérien aux avions militaires français, ceux-là même qui se rendent au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. On vous explique pourquoi. Jeudi dernier, le président français recevait des jeunes à l'Élysée, 18 jeunes issus de familles qui ont vécu la guerre d'Algérie. Vous portez une part d'histoire et aussi un fardeau, leur a-t-il dit, avant de fâcher l'Algérie en affirmant qu'on y trouvait un système politico-militaire fatigué, ce qui a fortement déplu aux officiels, mais il a irrité le président de la République également la fibre nationale au sein de la population avec cette question. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? Camille Schmitt et Anaïs Recouli ont interrogé Nofel Brahimi Elmili, historien, spécialiste des relations franco-algériennes, pour qui il faut se méfier d'une escalade entre les deux pays.
Dangereux parce qu'il a en face de lui un peuple qui a souffert d'une guerre, qui s'attend à des excuses. Là, non seulement il n'y a pas d'excuses, mais il dit qu'il n'y a pas de nation. Il a commencé par demander pardon aux harkis. Ensuite, le porte-parole Attal annonce la réduction de la moitié des visas. Et après, il fait ses déclarations. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Je ne vois rien qui puisse m'interdire de penser une quatrième étage de la fusée qui serait la rupture des relations. Quand on commence une escalade, il faut savoir l'arrêter. Et si j'étais excessif, je dirais que dans ce cas-là, l'agresseur, ce ne sont pas les Algériens.
Le journal Le Monde cite l'entourage du président de la République à l'Élysée. Emmanuel Macron aurait été déçu par ses interlocuteurs algériens alors qu'il prenait entente et réconciliation mémorielle même en début de quinquennat.
Quelques images du monde, Mathieu.
Avec d'abord une nouvelle catastrophe écologique. Depuis hier, les autorités américaines tentent de contenir les nappes d'hydrocarbures qui se dirigent vers la Californie. L'équivalent de 3000 barils de pétrole ont déjà touché les côtes, après ce que l'enquête tente de déterminer avec certitude, mais probablement la fuite d'un oléoduc à 8 km des côtes. Jean-Louis Borloo, on se souvient que vous avez été ministre de l'Environnement. Marée noire, forcément, catastrophe écologique.
Oui, bien sûr, c'est une catastrophe. Je ne connais pas, j'ignorais pour tout vous dire. Bien sûr que ça en est une. J'espère qu'ils vont prendre les moyens les plus efficaces pour la contenir et la dissoudre.
Nature toujours, Babette, mais c'est beaucoup plus joyeux. Avec ce chasseur qui trouve une caméra égarée en pleine nature dans le Wyoming, lorsqu'il l'a rallumée pour regarder ce qui s'y trouvait, surprise, il y a cette ours qui était parvenue à l'allumer, à se filmer, à essayer de manger la caméra avant de l'abandonner finalement. Et du coup, on a pu récupérer ces images une fois la batterie rechargée. Autre animal, autre caméra, autrement plus impressionnant. En Australie, un drone qui filmait des crocodiles pour un documentaire. On voit l'ombre du drone sur l'eau. Survol d'un peu trop près sans doute, puisqu'un crocodile a bondi et attrapé l'appareil en plein vol. Le plus insolite, finalement, c'est que ce drone a finalement été retrouvé. Et puis enfin, c'est moins poétique, mais tout aussi impressionnant. Pour la première fois, on a filmé l'intérieur d'un ouragan en pleine mer, l'œil du cyclone par le bas, si vous voulez. C'est un drone marin, un engin flottant, des vagues de 15 mètres de haut, des vents à 190 km/h. Auparavant, on n'avait que des images prises du dessus.
Kylian Mbappé se confie et ça va faire parler chez les supporters du PSG.
Ça, c'était le feuilleton de la fin de l'été. Kylian Mbappé partira pas du PSG engagé à Paris jusqu'en 2022. Le PSG a voulu le garder malgré les plus de 150 millions d'euros proposés par le Real. L'affaire est bouclée. Quoique, l'attaquant de l'équipe de France a remis une pièce dans la machine en répondant à nos confrères d'RMC.
J'ai demandé à partir, parce que à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. Ouais. Moi, j'ai vraiment voulu que vraiment tout le monde sorte grandi, qu'on sorte tous main dans la main, on fait un bon deal. Moi, voilà, ma position, elle a été claire. J'ai dit que je voulais partir. Ouais. Et je l'ai dit assez tôt, parce que voilà, personnellement, j'ai pas trop apprécié le fait de dire « oui, il vient la dernière semaine de août ». Non, c'est pas vrai, parce que ça fait voleur.
Les discussions et la vie de millionnaire. À côté de ça, les footballeurs sont capables aussi d'avoir une vie normale ou presque. Le même Mbappé et son collègue, le défenseur Achraf Hakimi, en route pour Rennes ce week-end, ils ont fait sensation dans cette supérette de station-service. Des joueurs du PSG, forcément, ça ne passe pas inaperçu. On les retrouve ensuite assis par terre, dans les rayons, en train de s'amuser, à trappe dans les Yvelines. Il faut juste s'imaginer les clients qui tombent sur eux en survêtement et parfaitement par hasard. Pas besoin de s'imaginer pour ce qui est de ce concert à la Cigale. Messi, Paredes, Icardi, Navas, Di Maria sont venus assister au même concert. Tiens, on va écouter d'ailleurs ce qu'ils sont. Alors à la musique, vous aurez compris le casting. Des Sud-Américains du club de la capitale étaient de sortie. On a organisé leur venue en toute discrétion, dit le responsable de la Cigale. Mais ces cinq-là réunis en dehors d'un terrain de foot, forcément, ça se remarque. André Di Maria, je vous le disais, qui figurait parmi les Parisiens à la Cigale, un peu de bon temps avant de se voir cité dans les Pandora Papers.
Justement, Le Monde, Cash Investigation et le Consortium international des journalistes d'investigation publient de nouvelles révélations sur les paradis fiscaux.
De nouvelles fuites de documents confidentiels analysés, épluchés par 150 médias internationaux, des leaks, comme on dit en bon français. Les Pandora Papers, ce sont 12 millions de documents qui ont été récupérés, dans lesquels on retrouve 35 actuels ou anciens chefs d'État, 14 cabinets qui organise la fuite des capitaux, la création de sociétés écrans, 600 Français d'ailleurs identifiés, on va en reparler. Je vais prendre quelques exemples ce soir parmi ces 12 millions de documents. Le roi Abdallah de Jordanie, par exemple, ses résidences luxueuses au Royaume-Uni et aux États-Unis et sa trentaine de sociétés immatriculées aux îles Vierges britanniques et au Panama pour le maximum de discrétion. D'autres noms connus, reconnus dans ces documents, celui de Tony Blair et de son épouse, le couple propriétaire d'une résidence d'une valeur de 7 300 000 euros à Londres. En réalité, ils ont acheté des parts d'une société offshore pour économiser l'équivalent de 380 000 euros de taxes. Écoutez, Tony Blair, tiens, avant de devenir Premier ministre, là on est en 1994, il est arrivé à Downing Street en 97, lorsqu'il fustigeait ceux qui échappent aux impôts de leur pays.
Responsibility means a recognition that there is no divorce from the outside world. Social responsibility for all. If it doesn't apply to everyone, it ends up applying to no one. It applies to those who defraud the state of benefits, yes. It applies to those who evade their taxes.
Alors dans ces Pandora Papers, on trouve Denis Sassou Nguesso, on trouve la chanteuse Shakira, on trouve le nouveau Premier ministre libanais, celui qu'on attendait comme la relève des élites corrompues de Beyrouth. Et côté français, on trouve un nom bien connu, celui de Dominique Strauss-Kahn.
Dominique Strauss-Kahn, qui est au cœur du Cache Investigation, qui sera diffusé jeudi soir sur France 2. Élise Lucet, ce soir, notre invitée.
Moi, je m'en vais.
Bonsoir Élise, merci de votre présence ce soir. DSK enquête sur un homme d'influence, le nouveau numéro de Cache Investigation à partir de ce soir, depuis 18h sur France.tv et jeudi 7 octobre à 21h sur France 2. Enquête qui se concentre sur un des noms révélés ce week-end par les Pandora Papers, l'ancien directeur du FMI DSK. On va largement en parler dans un instant. Sur la plongée dans cette nouvelle vie de l'ancien patron du FMI. Mais un mot sur les Pandora Papers, plus généralement. Pourquoi les dictateurs fuient-ils une administration fiscale qu'eux-mêmes dirigent ? C'est ça qui est assez étonnant et qu'on découvre dans ces Pandora Papers.
Oui, enfin, ce qui est intéressant, je trouve, dans les Pandora Papers, parce que nous, à Cache, qui suivons Panama Papers 1, Panama Papers 2, LuxLeaks aussi, là, ce qui est intéressant dans les Pandora Papers, c'est que pour la première fois, on a 14 sources différentes. Avant, on avait une source, donc c'était le cabinet Mossack Fonseca au Panama. Là, on a 14 sources différentes. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, ça établit une géographie des sociétés offshore et des endroits où on peut faire de l'optimisation ou de l'évasion fiscale.
Une sorte de guide du routard de l'exilé fiscal. Quoi.
C'est pas loin. Et du coup, on se balade du Panama aux Émirats Arabes Unis, à Hong Kong. Et on se rend compte que petit à petit, effectivement, au fur et à mesure des scandales, ben, ces places offshore, elles se déplacent aussi parce que l'argent se déplace très vite et en général peut-être un peu plus vite que les policiers et même parfois plus vite que les journalistes. Donc on voit que ça bouge, on voit que ça évolue beaucoup et c'est en ça que cette enquête est très intéressante. Il y a encore plus de journalistes, il y en a plus de 600, il y a 117 pays concernés, des papiers dans tous les médias du monde. Donc je pense que c'est intéressant aussi sur ce consortium de journalistes d'investigation. En France, c'est Le Monde, Radio France et Cache Investigation. Et ce consortium fait que, vous imaginez, 12 millions de documents à trois journalistes d'investigation,
c'est pas impossible.
Bah, quand on est plus de 600, tout à coup, on travaille mieux.
Justement, ça, petite question. Ça, vous les avez cités, Élise Lucet, il y a eu les Offshore Leaks, les Panama Papers, puis les Football Leaks, Lux Leaks, etc. On est à près de 10 ans de révélations. Alors, on révèle, on apprend des choses, mais qu'est-ce que ça change concrètement?
En fait, c'est peut-être là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas assez de communication, mais il y a eu des changements. Il y a eu l'échange automatique d'informations. Donc ça, c'est tous les pays qui sont signataires de la convention OCDE. Donc, échange automatique d'informations entre les différents pays. Il y a le secret bancaire en Europe qui a volé en éclats, quand même. C'est pas rien. Hein. Oui. Il y avait des paradis fiscaux avec de vrais secrets bancaires en Europe.
Suisse.
Voilà, Suisse, Luxembourg, et sur l'échange automatique d'informations, ça a été dur, mais les choses ont bougé. Et il y a eu aussi de plus en plus de pays qui maintenant font des registres de commerce public, donc nous pouvons consulter. Et ça veut dire que les choses ont quand même réellement bougé. Et puis, un tout petit détail quand même, l'ICIJ, qui est donc ce consortium international de journalisme d'investigation, a fait les comptes. Et en gros, il y a eu quand même 1,150 milliard euros de sommes qui ont été récupérées dans le monde. Il y en a eu 126 millions en France, 50 dossiers ouverts en France. Ah. Il y en a encore beaucoup qui sont en cours. Donc ça commence à vraiment produire ses effets.
On va longuement parler dans un instant de Cache Investigation, cette plongée dans la nouvelle vie et la comptabilité de l'ancien patron de la FMI, sa nouvelle vie de conférencier qui lui rapporte beaucoup d'argent, pas toujours déclaré en France. On voit ça avec Élise Lucet, la réalisatrice de ce Cache Investigation. On vous attend. Le temps de remercier Jean-Luc Berlot, Mathieu Belliard. Il y aura le Vu, les actualités de Bertrand, l'œil de Pierre et le dîner de C'est à vous avec François Morel. À tout de suite.